Notre étude ce matin nous amènera à considérer le péché d'idolâtrie et les diverses formes qu'il revêt. Le péché d'idolâtrie, comme nous le savons, consiste à rendre un culte à une idole, à lui faire des offrandes et à se prosterner devant elle. Dieu a sévèrement condamné ce péché, qu'il appelle une abomination. Aussi, les lois interdisant cette pratique sont-elles nombreuses et catégoriques. Dans le Décalogue, c'est-à-dire la loi des 10 commandements, le premier commandement est une interdiction formelle concernant l'idolâtrie. « Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Cette interdiction est maintes fois réitérée dans le courant de la Bible. La tendance à l'idolâtrie a toujours été très marquée dans l'histoire de l'humanité. Elle traduit chez l'homme, même le plus primitif, une conscience plus ou moins précise du spirituel. De même, la question de la mort a toujours préoccupé les hommes dès la genèse de l'humanité. Cette préoccupation se traduit surtout par un refus d'accepter la mort d'un être cher comme une perte définitive, comme une fin absolue. Ce réflexe s'exprime par les tombeaux, les sépultures, qui tentent de perpétuer au moins le souvenir de ce qu'ils abritent. Certaines civilisations imaginaient la mort comme un prolongement des activités terrestres dans le royaume inconnu des morts. Pour atteindre ce royaume, il faut voyager et se nourrir. On approvisionne donc les tombeaux de victuailles pour le long voyage. Ces témoignages de sollicitude et d'attachement sont très touchants dans ce qu'ils ont de naïf, de fervent et de spontané. Ils représentent plus qu'une réaction contre l'illogisme de la vie qui n'aurait d'autre destinée que le tombeau. Ils sont une expression de notre soif d'infini, voire même de notre notion innée de l'éternité. L'idolâtrie est cependant moins inoffensive que tout cela. Tout en étant l'expression d'un besoin de protection et même de communion, elle ignore le vrai Dieu et lui en substitue un autre. Le fétichiste, par exemple, ne se séparera jamais de son fétiche, car il est pour lui une garantie de protection. Superstition, dirons-nous, mais notre monde civilisé n'est-il pas lui-même à l'image de ses primitifs lorsqu'il se laisse gouverner par toutes sortes de superstitions et de tabous que nous confondons avec la religion? Ne sommes-nous pas comme ces fétichistes qui nous font sourire lorsque nous portons sur nous des images ou des objets soi-disant saints et bénis sur lesquels nous comptons, soit pour éviter un accident, soit pour retrouver un objet perdu? Est-ce là toute l'idée de Dieu que nous nous faisons? Je pense aussi à tous ceux qui font de longs et coûteux voyages pour visiter un lieu soi-disant saint. Ils y vont avec la certitude d'accomplir une œuvre de mérite et de recevoir des grâces spéciales. Devant une telle dépense inutile de temps, d'argent et d'énergie, on se demande si le Christ a parlé en vain. De son temps, les Juifs ne reconnaissaient qu'un lieu saint, Jérusalem. De leur côté, les Samaritains étaient persuadés que Jéhovah ne pouvait se manifester que sur le mont Garizim. Souvenez-vous que la femme samaritaine, enhardie par la conversation, demanda à Jésus de trancher une fois pour toutes ce litige théologique. Ce à quoi Jésus répondit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Oh, je sais bien que personne n'osera contester l'autorité et la signification de ces paroles. Mais on ne cessera pas pour autant de consacrer et de révérer des objets et des lieux, et d'enseigner que la divinité s'y manifeste d'une manière plus extraordinaire qu'ailleurs. Aussi pouvons-nous comprendre pourquoi Dieu a choisi de nous cacher la sépulture de Moïse, et même celle du Christ, ainsi que le lieu de sa crucifixion. Dans ces cas, la tradition vient au secours de notre curiosité, qui demeure néanmoins insatisfaite. Ne serions-nous pas davantage dans l'esprit du vrai christianisme, en consacrant ce temps, cet argent, cette énergie au soutien réel d'un malheureux, au secours d'un orphelin, à la visite des malades de notre quartier ou des isolés. Ne serions-nous pas plus près de la vérité en enseignant et en croyant, comme l'apôtre Paul, que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il veut que les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le fait est que l'homme a besoin de Dieu. Et lorsqu'il perd de vue le Dieu vivant, celui qu'il doit adorer en esprit et en vérité, il se fabrique un Dieu à lui. Ce Dieu qu'il façonne est une projection de sa propre personnalité. L'idole, c'est l'homme lui-même, mais en plus grand. Plus grand dans ses vertus comme dans sa méchanceté. Visé par les prophètes tels Moloch et Baal, et tels les dieux du mal par excellence, auxquels on vouait un culte épouvantable à tous les points de vue. Le mot idole suggère une idée de faux, de nébuleux, d'artificiel et de trompeur. Ces mots décrivent assez bien le Dieu de nos imaginations. Un Dieu qu'on peut accommoder à toutes les circonstances, à qui nous pouvons tout faire accepter, contre lequel nous pouvons nous révolter et à qui on peut tout reprocher pour éviter de s'accuser soi-même. Dans nos esprits, selon les circonstances, ce Dieu est tantôt le tyran qui impose cruellement sa volonté. Il est tantôt le père sentimental qui est incapable d'aucune colère. Il est souvent reclus au fond de ses cieux, tel un propriétaire indifférent, qui ne se manifeste que le dimanche pour collecter son loyer, et qui ne se soucie plus du sort de sa propriété pendant le restant de la semaine. Ce Dieu-là est une caricature. C'est une idole aussi malléable, aussi pratique, aussi utilitaire que les arbres dont parle Ésaïe avec une ironie non dissimulée. Ces arbres, dit-il, servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Nous voyons ainsi que si nous n'avons plus apparemment dans notre société ce genre d'idolâtrie outrée, nous en professons une autre plus cachée, plus civilisée peut-être, mais non moins condamnable. Car l'abomination de l'idolâtrie consiste à abandonner le vrai Dieu de la Bible pour servir et aimer un autre Dieu, un Dieu qui sera plus à même de nous servir. C'est pourquoi la Bible révèle un Dieu jaloux qui exige l'exclusivité de la vie et de l'amour de ses créatures. C'est pourquoi encore l'idolâtrie est parfois décrite comme un adultère spirituel. Ainsi, l'amour de l'argent, c'est-à-dire la cupidité, est une idolâtrie. L'apôtre Paul semble même insister sur ce véritable aspect de la cupidité. Il écrit par exemple à l'église des Colossiens « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » En communiquant cette même exhortation à l'église d'Éphèse, il insiste sur ce même point. « Car sachez-le, leur écrit-il, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Toute affection à laquelle l'homme voue sa vie entière, à l'exclusion de toute autre considération, y compris l'idée de Dieu, est une idolâtrie. Jésus nous le fait comprendre dans son sermon sur la montagne. L'homme doit choisir son maître. Il ne peut en servir deux à la fois. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. L'apôtre parle aussi de ceux qui ont pour Dieu leur propre ventre et de ceux qui ne cherchent qu'à se rassasier de plaisirs et de jouissances. Bien que les lettres de Paul aient été rédigées il y a quelques 19 siècles, les péchés dont il parle sont loin de nous être inconnus. C'est pourquoi il faut pousser un cri d'alarme, car dans notre société, Dieu est un exilé. Il est exclu de notre vie familiale, exclu de notre vie professionnelle, exclu de notre vie sociale. Pouvons-nous dire qu'il est présent dans notre vie religieuse? Sur ces points, il n'est malheureusement pas anachronique de rappeler les mises en garde et les condamnations de la Bible. Plus que jamais, l'homme n'a plus confiance qu'en lui-même et en sa science, cette idole moderne. Il est temps de reprendre nos sens, de nous libérer du joug dégradant des superstitions, de dénoncer les idoles qui nous séparent de la vérité. Repoussons le faux Dieu utilitaire, modelé d'après notre fantaisie, et modelons plutôt notre vie, selon la volonté et les exigences du vrai Dieu, tel qu'il nous est révélé dans la Bible par son Fils Jésus-Christ.